Chapitre 15. Anna. La suite, c'est une épreuve de natation. Hanson et Nabila se tiennent debout au bord du bassin de la piscine municipale de la ville voisine. Après un pique-nique sur une plage de sable noir coincée entre deux résidences de luxe de Costa Adere, ma jolie Marseillaise a retrouvé son souffle. Mais Hanson a jugé plus prudent qu'elle reste spectatrice cette fois-ci. Hanson explique que nous allons devoir nager à 4 x 100 mètres le plus rapidement possible et nous commençons à nous dévêtir, même si l'idée de me dessaper devant Hanson le harceleur n'est pas des plus plaisantes. Non, 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 gardez vos vêtements et vos chaussures. Positionnez-vous simplement sur les plots. Je regarde mes camarades, incrédules. Nabila est hilar. Hanson reprend. Vous ne croyez tout de même pas que j'allais vous demander une petite nage tranquille? Si vous devenez astronaute, le retour sur Terre peut s'avérer chaotique. Il n'est pas rare que la capsule finisse sa trajectoire au beau milieu d'un océan. Donc, si vous arrivez dans l'eau, vous devez être capable de vous déplacer avec votre combinaison, bien plus encombrante que vos tenues actuelles. Croyez-moi, je l'ai vécu en 1994, et c'était pas marrant. Donc, l'exercice est un 4 x 100 mètres tout habillé, et c'est valable pour toi aussi, Diego. Réalistement, si tu pars dans l'espace, tu reviendras sur Terre équipé d'une prothèse. Donc, tout le monde reste comme il est, et c'est parti. Nabila, tu feras le public qui encourage, ok? Nabila se positionne au bout de la ligne d'eau et demande à Hanson d'attendre quelques instants. Depuis nos plots, nous la voyons entamer une sorte de chorégraphie de pom-pom girl à la retraite. « Donnez-moi un A, donnez-moi un S, donnez-moi un T, donnez-moi un R !» Au bout de 3 lettres, tout le monde a compris où elle voulait en venir. Mais personne n'ose l'interrompre, pas même Hanson, qui la laisse se dandiner jusqu'à avoir épelé « Astronauts ». Et puis, sans crier gare, parce que l'amérissage peut être brutal et inattendu, il lance la course. Je ne porte pas grand-chose sur moi. Mais la sensation des vêtements qui collent au corps et des chaussures remplies d'eau qui me tirent vers le bas est particulièrement désagréable. C'est beaucoup moins facile que je l'imaginais. Tout le monde parvient au bout de la course, mais cette fois-ci encore, c'est Diego qui termine le premier, ce qui fait dire à Axel « Ah, en fait, il y a un moteur dans ta prothèse. Ça devrait être interdit de nager avec ça, non ?» Diego serre les dents, mais il répond « Tu sais, je suis encore plus rapide sans. Si tu veux, on refait la course. » On y est. 2 hommes, une provocation, et c'est parti pour le concours de quéquette. Axel fait mine de se sécher, mais déjà Diego enlève sa prothèse et plonge dans l'eau, l'obligeant à le rejoindre. Nabila est en transe. Elle se positionne de nouveau pour sa chorée, mais je lui fais signe que ce n'est pas la peine. Elle revient, penaude, à mes côtés. « Elle était super, ta chorée. » « Mais tu sais ce qu'on dit, il ne faut pas abuser des bonnes choses. » Hanson fait un second décompte, les 2 hommes s'élancent et Diego s'avère en effet d'une rapidité encore plus redoutable. À l'issue de la course, Axel sort de l'eau vexé. Il serre la main à Diego et repart dans le vestiaire sans dire un mot. Bérénice s'élance à ses trousses, jugeant, comme nous tous, sa réaction disproportionnée. Mais il semblerait bien que ce petit jeu ait touché une corde sensible. Le soir venu, Diego nous guide vers une vaste étendue de sa propriété dont nous ne soupçonnions pas l'existence. À quelques mètres en surplomb du mur de pierre volcanique délimitant l'espace baignade, nous découvrons un jardin botanique miniature comprenant quelques palmiers, des figuiers de Barbarie et de nombreuses grappes de forbes et d'agave. Au centre, une pelouse immaculée et un large brasero en fonte n'attendent plus que nous. Hanson propose une veillée au coin du feu accompagnée d'un partage d'expériences personnelles, ce qui me donne l'impression saugrenue d'être en classe verte avec Madame Caton, mon institutrice de CM1. Mais Hanson a une explication valable à chacun des exercices proposés. Vous savez, ça se passe comme ça dans la Station Spatiale Internationale. Vous vous retrouvez avec des astronautes que vous ne connaissez pas forcément et avec lesquels vous devez cohabiter plusieurs semaines. Il est donc essentiel d'être capable d'écouter des histoires parfois intimes avec bienveillance et de livrer avec sincérité les pans les plus importants de votre vie afin que les autres interprètent mieux vos réactions face à une situation critique. La même transparence sera exigée de manière tacite lors du processus de recrutement. Vous restez maître de ce que vous partagez, bien sûr. Mais astronaute n'est pas une profession comme une autre. C'est du 24 heures sur 24 pendant des mois, parfois éloigné de vos repères. Alors votre équipe devient une nouvelle famille. La seule qui sera là pour vous soutenir, vous aider là-haut. Ceux qui seront astronautes demain feront peut-être partie des élus qui embarqueront pour Mars et passeront plus d'un an en vase clos. Alors si vous donnez l'impression de dissimuler des éléments importants de votre vie, ça pourrait être éliminatoire. Il marque une pause. Puis il se tourne vers Diego. Désolé d'être aussi abrupte, mais si je prends ton exemple, il faut que tu sois capable de répondre simplement à la question que tout le monde se pose en te voyant, à savoir l'origine de ton handicap. Je sais bien qu'on ne te demanderait jamais ça dans un entretien d'embauche pour un job classique. Ce serait même considéré comme un franchissement de ligne. Mais pour un astronaute, la vie privée est entremêlée à la vie professionnelle. Les communications avec les proches depuis la station spatiale sont enregistrées. Tout se mélange. J'observe le visage de Diego qui se décompose. Il n'avait clairement pas prévu de raconter ça ce soir. Hansen s'en aperçoit et se reprend. C'est valable pour vous tous, bien sûr. Alors, j'aimerais que chaque soir, à tour de rôle, quand vous vous sentirez prêt, vous partagiez avec les autres une partie significative de votre histoire. Hansen s'interrompt, attendant que l'un d'entre nous prenne la parole. Mais chacun regarde ses mains. Stratégie d'évitement de banc d'école visant à ne surtout jamais croiser le regard du professeur. D'accord, je vais me lancer. Tous les yeux se tournent vers Diego. Je perçois la crispation sur son visage, dans son corps. Il s'agit d'un immense effort, c'est évident. Alors il essaie de se détendre en plaisantant. Ça va être un peu long, désolé. Et c'est surtout la première fois que je vais raconter cette histoire à des gens qui ne sont ni ma mère, ni ma sœur. Et pour que vous me compreniez mieux, je sens que c'est comme ça que je dois vous la dire. Et si vous vous endormez, n'hésitez pas à me demander d'abréger, hein. Il rit. Nous rions aussi. Pure politesse, tout le monde sait bien que l'exercice est difficile. C'est Hansen qui conclut. Prends ton temps, Diego. Nous t'écoutons. Comme nous écouterons les autres les jours suivants. Je sens le froid pénétrer mon corps. Alors je me serre contre Nabila et réajuste mon écharpe. Les nuits de Tenerife sont fraîches en cette saison, surtout par temps couvert comme c'est le cas depuis quelques heures. Le silence se fait. Il n'y a plus désormais que le crépitement du feu, un léger souffle de vent dans les arbres, et la voix de Diego qui résonne dans cette nuit sans étoiles.